un tango, une danse, un baiser.
Et du bêta, pépété, pépé. Par les temps qui courent.
Ça y est, je suis 21.
Marie Richeux.
Et c'est seulement dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Parce qu'un jour au Maroc, vous étiez tous les deux invités en tant qu'artistes français dans un cadre diplomatique, partant déjeuner, le peintre Zaou Vouki fait arrêter le convoi pour s'assurer que le gardien de la villa ait bien quelque chose à manger en votre absence, il devient un ami précieux, un frère de création. Parce qu'il vous signale, dans ce simple souci, que nul être n'est pour lui une ombre invisible au paysage, vous entamez alors une nage commune dans les eaux que chacun à votre façon vous convoquez artistiquement. Richard Texier, votre texte raconte par petites touches ce lien de plus de 20 ans, dont on imagine qu'il perdure après sa mort, en 2013. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir Marie.
C'est un livre qui s'appelle Zaou, qui est publié aux éditions Gallimard, comme le précédent, qui s'appelait Nager. Vous publiez aussi Manifeste de l'élastogénèse aux éditions Fata Morgana. Je suis sûre qu'on va réussir à faire des ponts entre tout ça. Ça, c'est pour les livres. Et pour l'exposition, on peut évidemment signaler qu'en ce moment, au Musée d'Art Moderne à Paris, on peut voir quelques peintures, peut-être pas assez, disent certains, de Zaou Vouki, puisqu'on lui consacre une grande rétrospective. Et on va commencer, si vous le voulez bien, par un extrait d'un dialogue entre vous deux.
Vouki, ça c'est l'endroit où tu travailles, c'est ta palette, non?
Ouais.
Comment tu appelles ce rouge?
Oh, c'est un rouge très très fort. Rouge, rouge, rouge. Alors, le bleu, le bleu, le jaune, tout ça, il y a beaucoup de monde, tu comprends?
Peindre pour toi, c'est une manière de vivre, c'est une manière de respirer.
Oui, ça m'amuse, tu vois.
On n'a pas gardé le rire au montage, mais on aurait pu. Richard Texier, c'est un extrait d'un film qui s'appelle Rouge, très très fort. Parfois l'écran se coupe en deux. C'est un petit film si on parle de ce que vous avez utilisé pour filmer Zaou Vouki. Mais c'est un grand film si on parle de l'amitié qui est montrée. Quand vous lui posez la question de savoir si peindre, c'est une manière de respirer, de vivre, il dit que ça l'amuse.
Oui, il disait Zaou Vouki, ça l'amuse, oui, oui. Mais en effet, ce film, je l'avais fait avec un N73, qui était l'une des premières générations de Nokia, et première caméra embarquée. Donc l'un des premiers films qui a été fait avec un téléphone portable. Ce qui était vraiment précieux, parce que Vouki, il percevait ça comme un papillon qui dansait autour de lui, mais pas comme une caméra. Parce qu'à un moment, quand j'avais filmé ses œuvres, j'avais besoin de quelques œuvres qui passaient à l'écran, quand même, qui lui rendaient justice, qui n'étaient pas filmées comme ça, à l'arrache. Et j'avais apporté une caméra pour faire les choses proprement, et il se fermait. Il disait plus rien. D'un coup, ça lui paraissait un vrai film. Mon petit téléphone, il y croyait pas. Donc, du coup, il était très détendu, et tout restait normal.
Si bien que lorsque vous êtes juste au-dessus de son épaule pendant qu'il est en train de peindre directement au sol et que vous lui dites « Je suis l'un des seuls à te regarder et à pouvoir te filmer peindre », il se retourne et dit « Tu as peur de quelqu'un qui regarde ?»
Oui, il avait besoin de sentir un regard affectueux. Surtout dans un moment de lâcher prise totale qui est le moment de la création, évidemment. Et je me souviens que le filmant, parce que j'avais pas de photo de Vouki, j'avais rien de notre amitié. Et un jour, je me suis dit, tiens, avec cette première possibilité, là, des téléphones, je me suis dit, je vais faire quelques images de Vouki. Et le soir, quand même, en dînant, je lui montre ce que j'avais fait. Et il me dit, ah, mais c'est formidable, il faut absolument que tu fasses un film sur moi. Et sa compagne, Françoise, était là, elle dit, mais Vouki, je te signale que tu as refusé à Agnès Varda, tu as refusé à François Reichenbach, et tu demandes à Richard, qui est ton ami, dont c'est pas le métier, de faire un film. C'est bien ça, j'ai bien compris. Et vous qui dites, oui, lui, il peut, parce que il sait, il est peintre, c'est un ami, j'ai confiance. Pour vous qui, ça comptait énormément, ce lien de confiance.
Vous, vous décidez de lui faire confiance d'une certaine manière, ou de construire ce lien par le soin qu'il porte à une tierce personne. Je le raconterai brièvement en introduction, et c'est aussi l'introduction de votre livre. Il se soucie de savoir si quelqu'un va avoir à manger. C'est un souci très simple. Mais dans le cadre où vous étiez, vous, cadre diplomatique, ou peut-être on ne s'en souciait pas assez, à tort, vous prenez ça comme un signe de quoi ?
Un signe de qualité de cet homme. Vous connaissez beaucoup de gens qui font ça, franchement.
Franchement, oui.
Vous avez beaucoup de chance.
Je
parce
crois.
Que,
vous ça le, vous paraît, le notez moi, comme quelque chose d'en effet très très rare, hein, qu'on se soucie
essentiel
à
mes yeux. Bien sûr. Essentiel à mes yeux. Et d'un coup, parce que ce Chinois au Maroc, enfin tout ça, je voyais pas très bien qu'est-ce que je pouvais faire dans cette histoire. Enfin bon.
Vous étiez invité comme peintre avec lui.
Ouais. Et son comportement, c'est lui qui m'a plu. En plus, à l'époque, je connaissais pas très bien son travail. C'est vraiment lui qui m'a plu. Je l'ai trouvé formidable. Tout ce qu'il faisait m'enchantait. Et donc, on s'est revus. Vous savez, c'est ça l'amitié. Hein. C'est quand même quelque chose d'irréductible, d'inexplicable. Et on s'est revus. Et puis, on a développé une amitié de peintre. Parce que la peinture avait tellement de place dans notre vie que forcément, on en parlait.
Vous racontez un petit peu plus tard dans ce séjour, toujours au Maroc, qu'une soirée lui est consacrée chez l'ambassadeur, je crois.
Oui, peut-être.
Et,
oui.
Et puis, il est question de oui ou non mettre une cravate. Et il dit que vraiment, ce serait bien que personne n'en mette. Et puis, vous vous retrouvez quelques minutes plus tard en bas des escaliers, chacun encravaté, et tous les deux de rire. Et on sent que cette manière de rire ensemble est assez fondamentale dans ce qui a pu vous lier à cet homme, avant de parler de sa peinture.
Oui, parce que curieusement, un peintre se méfie du langage. C'est-à-dire ce qui peut se dire avec des mots, pourquoi le peindre ? Donc la peinture, par définition, est presque au-delà du langage. Et le rire, ce rire, vous savez, qui assouplit, qui gonfle tout, qui rend tout possible, quand on s'amuse des êtres et des choses et du temps qui passe, d'un coup, on prend naturellement de la hauteur, et cette hauteur-là, elle est très précieuse au peintre.
Est-ce que ça vous signalait que même célébré au Maroc dans des soirées diplomatiques, il ne prenait peut-être pas les choses, comme on dit, au sérieux ?
Non, parce que c'est l'œuvre qui le préoccupait, c'est l'œuvre qui est sérieuse au sens où, même s'il s'agit de la faire avec désinvolture, mais c'est créé qui est sérieux. Tout le reste, c'est la mousse du monde.
Quand il répond « ça m'amuse », vous, vous comprenez quoi ?
Mais que ça m'amuse aussi, au sens où... Ça, c'est divertissant de nouer une relation sensible avec le monde. Et la peinture, la création, la sculpture le permet. Moi, je connais rien de plus divertissant, amusant. Amusant au sens où l'être se réjouit. Vous voyez, il y a quelque chose de cette nature. Et du coup, totalement lassant aussi. C'est-à-dire, quand on a connu ça une fois, vous savez, peindre, quand on a connu ça une fois, c'est... et que l'activité vous a emporté, emmené très haut, très loin en vous-même, vous n'avez pas envie de vous arrêter. Vous voulez recommencer toujours. C'est comme après qu'on ait fait l'amour, on a envie de recommencer tout le temps.
Quand vous dites que vous vous méfiez des mots parce que la peinture va au-delà de ça, ça vous permettait quand même, avec Zhao Vuqi, de parler de ce qu'est la peinture ? De mettre des mots sur ce qu'est la peinture.
Alors, ce qui était très agréable avec Vuqi, enfin moi que je trouvais très agréable, c'est qu'il faisait des phrases courtes, il disait des choses simples. On n'était pas dans l'exégèse ou dans les citations complexes ou les audacieuses ou littéraires mises en perspective. On disait des trucs simples. Et
comme quoi, par exemple ?
Ben, on parlait des couleurs, ou alors il disait des trucs comme ça, tu as du culot, tu vois. Ou alors le matin, quand il m'appelait, il disait jamais allô. Il me disait, tu travailles. Et tout était plus comme clarifié, vous voyez. C'était, l'amitié devenait évidente et le lieu où on engageait la conversation était un lieu qui essayait d'être très élevé, au moins aussi élevé que notre tentative.
Assez immédiatement, c'est-à-dire que vous passiez des paliers, quoi.
Vuqi, c'était pas compliqué. Quand il aimait pas, il parlait pas. J'ai des tas d'anecdotes à ce sujet.
Quand il aimait pas les êtres, vous voulez
oui,
dire ?
Oui. C'est-à-dire que parler était une difficulté pour lui, parce que il maîtrisait pas très bien, c'était les deux. Il maîtrisait bien la langue, mais curieusement, quand il voulait dire des choses sensibles, les mots lui ne venaient pas toujours.
Ça arrive.
On peut comprendre. Et puis par ailleurs, il était, il voulait pas quitter son endroit de création. En fait, c'est ça.
Comme une distraction, quoi. C'est que le dialogue avec les autres, il fallait, pour qu'on s'autorise la distraction, qu'il soit aussi élevé que l'œuvre à laquelle il s'attelait.
Voilà, il présupposait, alors sur quoi il avait fondé cette certitude, j'en sais rien, mais il présupposait que je comprenais ce qu'il ne disait pas. Parfois, il lâchait un mot et il pensait que j'allais faire la phrase complète. C'était assez vrai parce que je voyais assez bien où il voulait en venir.
Et l'inverse valait ?
Ben, je crois aussi parce que, en plus, il était un peu sourd, Wookie. Et je l'emmenais pas dans des grandes constructions savantes, littéraires, etc. On avait vraiment à la fois une relation un peu tactile. On se touchait beaucoup, on touchait la matière, les peintres sont tactiles. Et puis, vous savez, un vrai ami, en fait. Hein. On le sait tous, ça. On peut s'asseoir à côté de lui pendant 2 heures, regarder le paysage, ne pas dire un mot et avoir passé un très bon moment. Et ben, c'est ce qu'on faisait avec vous qui on regardait pas trop le paysage, ça nous arrivait quand même, mais on regardait les tableaux.
Vos tableaux.
Et les siens.
À vous deux. Justement, vous racontez, Richard Texier, dans ce texte Zao, la découverte après des hommes, celle des œuvres. Comment elle se passe, où, et qu'est-ce que ça tisse peut-être de nouveau dans votre lien naissant à ce moment-là? Le fait qu'il découvre vos œuvres, que vous le fassiez vous en retour, et qu'il même il en achète.
Ça m'a beaucoup surpris, parce que à peu près 2-3 jours à notre retour du Maroc, où on l'avait senti, il y a quelque chose s'était passé entre nous, mais en même temps, on n'avait pas eu beaucoup de temps pour développer tout ça.
Puis c'était loin de la peinture, puis tout ça.
Oui, c'était quand même un rythme de voyage officiel, avec beaucoup d'étapes, beaucoup de gens autour de nous, beaucoup de rencontres. Parfois, on se séparait pour faire des trucs chacun de notre côté. Et puis, 2-3 jours après, il m'a dit en partant, je veux voir ton atelier. Ça m'intéresserait beaucoup, est-ce que tu acceptes? Mais bon... Lui, 3 jours après, il m'appelait, il venait, il s'intéressait beaucoup à mes tableaux, il voulait tout voir, il bougeait les grands tableaux, il fouillait dans l'atelier. Et en effet, il m'a donné la seule preuve qu'on peut vraiment donner à un artiste, c'est que il a voulu repartir avec des tableaux et il m'a acheté quelques œuvres.
Vous aimiez voir qu'il bouge les choses dans l'atelier, est-ce que vous étiez surpris de cet intérêt-là et de la forme que ça prenait?
Non, j'y voyais l'expression d'une curiosité amicale, quoi. Presque d'une impérieuse nécessité pour que notre relation aille plus loin, d'en savoir plus. Et un atelier, c'est vrai, ça parle. Tout parle. Les chiffons, le matériel, les tableaux, les livres tachés de peinture, tout parle. Et il se nourrissait de ça, il voulait savoir à qui il avait affaire, quoi.
Vous signalez son amitié avec Soulages, vous racontez aussi Pierre Soulages, vous racontez une des soirées, puis avec d'autres artistes, on y viendra, des poètes, des auteurs. Vous concernant, est-ce que cette amitié avec Zao Wookie était quelque chose d'assez inédit dans les relations que vous pouviez avoir avec les autres artistes?
J'avais eu quelques relations fortes comme ça avec des artistes d'une génération au-dessus de la mienne. Par exemple, Jean de Gotex. J'adorais quand je suis arrivé à Paris, j'ai connu Jean de Gotex. Je l'ai aidé à travailler. Il m'a accueilli dans son atelier. On avait une relation forte également. Mais pas de même nature que Wookie. Wookie aurait pu, c'était drôle ça, parce que ça aurait pu être mon grand-père au fond, presque. Et je l'ai jamais regardé comme un homme âgé. C'était mon copain chinois. Oui, c'est très bizarre, je me suis rendu compte de ça à un moment.
Vous dites chinois, quoi. C'était pas juste votre copain.
Non, c'était chinois parce que on parlait de Chine à un moment, c'est-à-dire que assez vite, il me disait « va en Chine ». Parce qu'il savait que j'ai coutume de faire des ateliers nomades à travers le monde, donc je fais ça comme une stratégie de renouvellement. Et il avait constaté que j'étais pas allé en Chine. Et il me dit « va en Chine ». Et il me le répétait. Et un jour, il se fâche, c'est un homme plutôt très aimable, il tape sur la table, je me souviens, et il me dit « va en Chine ». Je lui dis « mais écoute, Wookie, pourquoi moi, plutôt que... Soulages ou tes copains, quoi, Rouen, Meurice, pourquoi moi ?» Il me dit « parce que toi, ça va marcher ». Alors, il me voit un peu interloqué. Il me dit « parce que tu es lié à l'esprit de la montagne jaune ». Ça calme. D'un coup, la montagne jaune.
Alors, c'est quoi raconter ?
J'ai pas tout compris de l'acception de la formule.
Qu'est-ce que vous comprenez, en tout cas, qui vous calme ?
J'ai compris que... D'abord, j'y ai vu un commentaire sur sa peinture, elle-même. Les brumes, vous savez, les monts lointains, une peinture pourtant abstraite, liée à l'aventure de l'art informel. Et même, curieusement, c'est d'ailleurs ça qui faisait la qualité de Vouki, de mon point de vue, sa qualité d'artiste. Et l'incroyable étendue de son pouvoir, c'est que c'est un hybride, Vouki, c'est l'un des premiers hybrides. C'est un très grand lettré, un chinois, qui vient des antipodes, hein, pour nous les occidentaux, et qui a réussi à s'associer presque immédiatement à l'aventure, à l'avant-garde de son époque, sans oublier pour autant qui il était. Si on y regarde de près, y compris dans l'exposition que vous évoquiez tout à l'heure, les couleurs, les nuages, le goût des turbulences, des flux, des montagnes, ce qu'on peut appeler le feng shui. C'est-à-dire la nature, c'était de la figuration, mais avec un zoom, un très grand recul, un zoom très très large. Il regardait la nature, mais sa nature à lui, c'était les fleuves, le cosmos, comme la mienne. On parlait de la même chose dans ces cas-là. Un grand hybride, travaillant en Occident, avec le sens des problématiques artistiques de son temps, sans oublier qui il était.
Alors quand il vous dit, toi, ton travail à avoir avec la montagne jaune, il vous donne quoi ? Un passeport pour votre propre art ? Un passeport pour la Chine ?
Il formule d'abord une injonction. Vas-y, tu auras grand profit à y aller. Grand profit poétique, intellectuel, et tu vas trouver aussi des partenaires. Il me l'a formulé à sa façon au fur et à mesure du temps. Mais la première fois, il faisait pas d'explication de texte, vous qui. Il lâchait des trucs comme ça, mystérieux. Il parlait comme ça, par ellipse, il lâchait un truc. Donc je l'ai fait. J'ai écouté très vite. Et il m'a aidé, il a parlé pour moi, il m'a donné un texte en me disant « Utilise-le comme tu veux, sur les catalogues, montre-le dans des journaux. Ben, » C'était comme un blanc-seing, comme un sauf-conduit, un laissez-passer pour son pays, parce qu'il est très connu, Vouki, en Chine. C'est comme un dieu vivant. Je m'en suis pas rendu compte à ce moment-là, et surtout pas au Maroc, quand on s'est connu. C'était quelqu'un dans la caution, surtout en Chine, qu'on est dans la transmission, en Chine. Et il parlait pour moi, ça veut dire il parlait pour un jeune artiste occidental. C'était un blanc-seing, quoi. J'avais son sceau. Et ça a changé beaucoup, en effet. Il envoyait des petits fax, comme ça, sa compagne, mes yeux, je sais pas ce qu'il fait, il envoie, je sais que ça te concerne, parce que il y a ton nom qui est écrit, mais je sais pas à qui il envoie, je comprends pas, à l'époque, il y avait pas de mail, on envoyait des fax. Il envoyait des petits billets, comme ça. Et il m'a beaucoup aidé.
Je lis beaucoup de philosophie chinoise parce que ça me touche plus facilement. Je suis né avec cette philosophie, que c'est normal, que je comprends mieux que Spinoza ou autre chose, vous voyez. Et, surtout pour moi, la pensée de Tao est plus près de moi. C'est possible, malgré moi, que j'étais influencé par cette pensée de Tao, c'est-à-dire certains vides dans ma peinture, certains espaces fuyants, disons. Alors peut-être c'était à cause de cette pensée. Mais pour moi, quand même, la vide, pour moi, est une... chose très importante pour moi dans la peinture. Je crois que le vide n'est pas vraiment le vide, parce que le vide présente beaucoup plus qu'il existe. Dans ma peinture, la partie la plus vide, c'est-à-dire qui présente l'espace, ça me donnait plus de travail que les choses qui présentent réellement, vous voyez. C'est-à-dire que mon occupation essentielle, c'est de rendre cette vide plus vivable, plus remplie que possible, vous voyez. C'est aussi pour moi, c'est le silence, vous voyez. Je trouve que dans la peinture, très important, c'est le silence. Quand il y a trop de choses remplies, ça fait une peinture complètement bouchée. Il n'y a plus rien. Quand il y a un certain silence, la peinture commence à prendre sa propre vie.
Zaouvki, dans une archive de 1968, dit « Peut-être, oui, j'ai beaucoup lu la philosophie chinoise plus que Spinoza et autres, et peut-être m'a-t-elle influencé ?» Il reste assez en suspens par rapport à ça. Richard Texier, vous disiez « Découvrant cet homme, je découvre un homme très lettré. » Ça passait par quoi, cette découverte ? Il vous parlait de littérature, vous avez découvert une partie de sa première bibliothèque, vous-même, en voyant sa peinture, vous reveniez à, peut-être à un endroit de la poésie ou de la pensée Tao. Comment est-ce que vous vous rendiez compte qu'il était cet homme lettré ?
D'abord, j'ai découvert sa peinture au fur et à mesure où notre amitié grandissait. Il m'avait raconté évidemment sa vie, ses difficultés d'une manière très pudique, mais j'ai voulu à un moment, comme j'allais beaucoup à Shanghai, j'ai voulu retrouver sa maison. Il avait un peu oublié, ou il voulait oublier parce que ça lui rappelait des mauvais souvenirs. J'ai eu la chance de rencontrer sa nièce, qui m'a emmené dans la maison. La maison était séparée en appartements, et il y avait beaucoup de gens qui habitaient là, et au cœur de la concession française. Et dans un placard, j'avais demandé à sa nièce ce qu'il a laissé des choses, son premier matériel, un carnet de dessin, ou je sais pas. Et oui, il y avait des choses, mais on n'a rien retrouvé. En revanche, il y a un petit carton là où il y a des livres, je crois, et on a ouvert ce carton, et j'ai vu, c'était très très émouvant, j'ai vu ce qui avait fondé son rêve de rejoindre l'Occident. Où s'était-il procuré les livres à l'époque? Parce que là, on parle des années 40, hein. Comment il avait fait en Chine dans les années 40 pour trouver des livres sur Picasso, sur Gertrude Stein, sur les toutes premières abstractions américaines, mais sur Modigliani. Moi, ça m'avait vraiment beaucoup touché de retrouver cette petite, d'autant plus qu'il y avait des taches de peinture. On sentait que les livres avaient été ouverts, triturés, observés, qu'ils avaient nourri une pensée en marche, un peintre qui essayait de s'alimenter à des tropismes très lointains. Et j'ai filmé avec mon portable, justement. Et en rentrant, je lui ai montré à Vauquier. Il croyait pas, il touchait l'écran, il voulait tourner les pages des livres. Il croyait pas, il me disait, mais comment tu as fait pour retrouver ma bibliothèque ambulante? Comment c'est possible que tu as retrouvé ça? Et alors, c'est-à-dire que le livre, les textes, les tableaux, en effet, le Tao, mais ça, parce que c'était un lettré, c'était un Zhao. Il avait été formé par son père. Son père était banquier, était un très grand banquier.
Puis avec une tradition artistique très forte, hein. Vous racontez que tous les ans étaient ouverts des rouleaux pour rendre hommage à la production.
Voilà, aux enceintes. Ils avaient un trésor familial. Ils rendaient hommage. Ils l'ouvraient. Alors, il y avait une œuvre, un rouleau du XIe siècle, je crois. C'est la peinture ancienne. Et là, on voyait la montagne jaune, justement. On voyait les brumes, on voyait ces pics, vous savez, qui tutoient les nuages, avec ces petits végétaux qui s'accrochent à flanc de montagne. C'est la montagne jaune est très liée au souffle de la peinture chinoise. Et Vauquier était très féru de tout ça, très alimenté, et il a rien oublié tout au long de sa vie, même quand il a commencé, en arrivant en Occident, à rencontrer Klee. Et sa peinture, surtout, et la peinture de Klee l'a influencé. Mais il n'oubliait pas ça. On voit les tableaux chinois dont on parle, on voit l'histoire de la peinture chinoise.
Dans sa propre peinture, vous voulez
dire?
Dans
sa première peinture, mais aussi dans au Musée d'Art Moderne, on voit de très grands tableaux qui parlent de ça également.
Concernant la poésie et la littérature, ça infuse aussi votre propre texte parlant de lui. Ça occupait quoi comme place dans votre amitié, dans votre dialogue? Bon, évidemment, il y a Michaud qui a été l'un des premiers, lui aussi un ami.
Ah, mais je l'ai beaucoup questionné là-dessus parce que bon, il y a une mythologie sur Vauquier qui disait qu'il avait appris à parler français en lisant Michaud. C'est difficile à croire. Michaud, alors je n'arrêtais pas de taquiner, de lui dire vraiment t'as appris. Et il me disait oui, et c'était vrai sans doute. C'est-à-dire que le goût d'apprendre le français lui est venu de cet homme et de sa qualité et de la qualité du regard qu'il posait sur la peinture de Vauquier. Mais enfin, il était quand même allé prendre des cours à l'Alliance française.
Et alors, il continuait de le lire, il continuait de lire de la poésie, et ça participait aussi de ce que, je sais pas, de ce qu'il y avait en partage entre vous deux?
Il lisait beaucoup de poésie, en effet. Il lisait peu de romans, Vauquier, mais il lisait de la poésie, et il lisait des textes chinois.
Et il vous en parlait?
Parfois. Il parlait peu, surtout, il parlait pas comme on parle nous. C'est-à-dire
nous qui
nous les Occidentaux, nous les Français, en essayant de justifier, d'argumenter. C'était des bribes lâchées dans son esprit sans importance. Ce qui comptait, c'était le cœur de son travail, le cœur vibrant de son travail, qui était la peinture. Et ça, ça nous unissait beaucoup, parce qu'il avait compris que j'étais du même tonneau. Qu'au fond, aucun texte, aussi beau soit-il, ne peut remplacer un tableau.
Je crois que si j'avais à dire en deux mots Comment et Michaud, je dirais que c'est un Chinois. Quand je dis Chinois pour Michaud, c'est en effet le lien qui s'est fait pour l'occidental qu'il était avec la musique, avec l'art plastique. C'est quand il est allé en Asie, après être allé en Amérique du Sud, c'est là où il a découvert beaucoup de choses. Et dans Émergence, Résurgence, il dit par exemple « L'Asie maintenant loin revient, me submergeant par moments, par longs moments. Le pays où a compté souverainement la paix profonde ne m'a pas quitté. » Plutôt, les pays ne m'ont pas quitté. « Envahissement profond, envahissement retard, résurgence, pays rappelant période. Dans mon enfance, sans comprendre, sans communiquer, distant, je considérais les gens autour de moi, leur agitation dénuée de sens, leur intranquillité. En moi, paix, détachement étaient combattus. Enfant en Occident. » C'est enfant en Occident qui se pense enfant en Orient. Il y a une grande révélation qui vient de la Chine. Et qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois la Chine, comme il le dit à propos de la musique, un art du comportement, quelque chose qui ne passe pas par cet état solide, par ces frontières marquées du monde. Et il le dit à propos de la musique, qu'elle est sans référence au monde physique extérieur. Michaud se méfie du trop-plein, du trop-plein.
On est en 1977, c'est Jean-Louis Cavalier qui parle d'Henri Michaud comme d'un Chinois. Richard Texier, tout à l'heure, pour parler de votre amitié avec Zhao Wuki, vous avez dit « c'était mon copain chinois ». Et c'est vrai que, en lisant votre texte, moi j'étais presque perturbée par la récurrence de cette référence au fait qu'il soit chinois, vous occidental, dit de cette manière-là, de manière aussi séparée, aussi prégnante. Là, on entend Jean-Louis Cavalier dire, presque utiliser des mots similaires pour dire autre chose à propos de Henri Michaud. Pourquoi est-ce que c'est si clair dans votre tête que Zhao Wuki c'était la Chine et qu'il venait et que vous c'était l'Occident et qu'il y avait quelque chose qui se ressentait très fort dans votre travail de peinture et dans votre amitié?
Parce que c'est quasiment le chemin inverse au fond. Le point d'origine pour lui c'était la Chine. Comme je vous le disais à l'instant, il avait hybridé son œuvre à l'Occident. Moi j'avais fait un peu l'inverse. À travers le monde, j'avais petit occidental, charentais, maritime. Je suis allé dans le monde entier, j'ai posé mon atelier, mes pinceaux, piqué ma tente, et j'ai travaillé avec des cultures. On est, vous savez, notre génération, c'est ce qu'on vit. L'abolition des frontières, l'ouverture du monde. Il est petit à petit, évidemment, ça ne va pas se faire sans soubresaut, mais il advient une espèce de conscience globale qui va beaucoup nous aider à résoudre les grands problèmes qui se posent au monde. Bon, pardon de dire ça, moi, mais les nationalismes, ça veut pas dire grand-chose pour moi. Je suis un petit gars du monde, quoi. Et vous qui aussi. Et alors, on avait fait le chemin inverse. Du coup, lui essayait, pour des raisons assez objectives, de m'attirer en Chine. Et puis moi, je lui expliquais à quel point Il avait compris. On parlait quand même beaucoup de peinture américaine aussi. Il aimait beaucoup l'art américain. Il avait... Je me souviens d'un jour au téléphone, parce que c'était commode de se parler au téléphone, s'il entendait très bien Wookie. Au téléphone. Et on se passait les téléphones à fil, vous savez, qu'on collait à l'oreille. Un matin, il me dit, mais il ne retrouvait pas le nom d'un peintre américain. Mais c'est un peintre, il est connu avec des... Il faisait des bandes, tu vois, des grandes bandes, abstraites, tu vois. Et alors je lui dis, Frank Stella? Il dit, non, beaucoup plus loin. Et en même temps, je me dis, il a quand même pas connu Barnett Newman. Et alors je lui dis, Barnett Newman? Et il me dit, oui, voilà, Barnett. Et ce qui était formidable, c'est qu'il était vieux quand même. Et il avait vu du pays. Et il s'était intéressé à plein de trucs.
Bah, il vous offre une boîte qui dit, justement, ce cadeau qu'il vous fait, Richard Texier. Il dit non seulement que, bon, certes, c'était un homme plus âgé que vous, mais qu'il avait aussi eu à fréquenter une partie de l'histoire de l'art moderne, d'une certaine manière.
Mais oui, un jour, il m'amène sa boîte, là, comme ça, sous le bras. Il venait à pied, là où il habitait, rue Jean-Coy. Et il m'amène cette boîte. Et il m'explique, il me dit, moi, je ferai plus de gravure, c'est pour toi, c'est à toi. La transmission, toujours dans son esprit. Hein. Ça aussi, c'est... Il était chinois. Et il m'avait choisi pour me remettre cette boîte. Il voulait que j'utilise les outils. Et en ouvrant le coffret, et en faisant l'inventaire des outils, il me dit, en effet, ça, c'est... Miro, c'est les manches en buis, c'est Miro qui me l'a donné. Et il me dit, ça c'est Alberto et Giacometti. Et c'est des manches plus sombres. Et il sort un petit truc et il me dit, ça c'est Urgo, c'était un pansement. Et pour vous qui, tout était mélangé comme ça. Et ça, tout se terminait toujours par un grand rire qui enlaçait tout. Qui était une sorte de point... À un moment, ça voulait dire, allez, on arrête de parler, l'essentiel est dit. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
Justement, puisque vous parlez de vos propres voyages et du nomadisme et des ateliers que vous installez pour un certain temps à certains endroits du monde, vous avez eu l'impression, Richard Texier, d'être un peintre occidental quand vous arriviez dans des pays étrangers, de vous vivre comme ça dans votre peinture ?
Un peu quand même, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que, ça, je veux dire que, oui, c'est vrai, on est tous de quelque part, mais ça m'a jamais gêné.
Mais ça vous a déterminé? Vous vous sentiez déterminé par ça?
Vous savez, quand on arrive à Hong Kong, parce que j'ai beaucoup voyagé, quand on arrive à Hong Kong et qu'on retrouve le cœur de ville, en général, partant de l'Europe, on arrive en fin de journée, et il y a une highway qui vous emmène au cœur de Hong Kong.
C'est quoi?
C'est une sorte d'autoroute.
Ah oui, highway, d'accord.
Qui fait, je sais pas, une heure de voyage, un peu moins trois quarts d'heure. Et là, ça roule vite. Et il y a un moment, une très grande publicité, comme ça le font les Chinois, lumineuse. Mais très grande, celle-ci. Elles vont rouler vite, alors il faut la voir, il faut percevoir le message. Elle fait peut-être, je sais pas, 30 mètres de haut par 50 mètres de long. Hein. Une très grande publicité. Et il y a écrit... Et à chaque fois, vous allez voir pourquoi, je me perds pas en vous parlant de ça. HSBC, Local and Global. Et en effet, il faut être de quelque part pour être universel. Il faut être singulier aussi pour être universel.
C'est-à-dire, enfin là, vous parlez d'une banque, vous parlez pas d'artiste, c'est pas
pareil. Si, parce que c'est un message, la banque, on s'en fiche un peu, mais... Local et global, c'est de ça dont il s'agit. On ne peut pas être global sans venir de quelque part. Il faut être enraciné. On peut faire des branches gigantesques qui enlacent le ciel et les nuages, mais il faut que l'arbre y soit ancré quelque part.
Et votre quelque part, en l'occurrence, parfois, c'est près de la mer.
Françoise connaissait l'existence de ma cabane sur l'océan. Elle montra des photos à Wookie qui fut enthousiasmé. Ils voulurent s'y rendre. Bonne idée, un lieu aussi singulier ne pouvait qu'enrichir notre film. J'expliquais que les habitants de la région appelaient ce genre d'endroit un ponton ou un carrelet. Il se compose d'une passerelle de 100 mètres de long, donnant l'accès à une plateforme carrée qui supporte une petite cabane et se prolonge d'un filet. Du site émane un fort sentiment maritime. Des concessions ostréicoles occupent l'espace de l'estran alentour, couvert de parcs à huîtres. La vocation première de ce dispositif est la pêche. mais j'y ai peu à peu élaboré une conception personnelle que j'appelle la théorie des 3 P. Pêche, peinture, poésie. Beaucoup de peinture, un peu de pêche, un zeste de poésie, tel est le talisman du lieu. La porte d'entrée, en forme de pleine lune, marque un changement d'ordre. Elle m'a été inspirée par les ouvertures arrondies qui marquent l'accès des temples bouddhistes. Le nombril des visiteurs traverse le centre virtuel du cercle qu'elle dessine. Passé ce seuil symbolique, rien ne se passe comme à terre. On se sent sur le pont d'un navire louvoyant sur les côtes, embarqué pour une aventure sensorielle, suspendu entre ciel et océan. À notre arrivée, un petit vent d'est frisait les vagues. La mer montait. Je m'empressais de mettre le filet à l'eau, tandis que Vuki sortait son matériel pour capter ses premières impressions. Il s'installa contre le vent afin de profiter de la vue du grand large. Le souffle dispersait à sa guise et sans égard pour le peintre chinois la couleur sur le papier. Il ne parvenait pas à contrôler son travail, mais l'adversité atmosphérique l'amusait. Il tentait en vain d'utiliser les arabesques qui se formaient sur le papier grâce aux bourrasques. Le hasard est parfois un très bon allié. Sa feuille finit par s'envoler, le pot d'eau se renversa et les pinceaux roulèrent sur le sol. Il était temps de s'abriter dans la cabane. Quand la marée fut haute, le vent tomba. Vuki put se remettre à peindre et moi à filmer. Il fut particulièrement inspiré par ce calme retrouvé. Une verve atlantique inattendue lui fit réaliser quelques-unes de ses plus belles aquarelles trempées dans la puissance océanique.
Richard Texier, on est presque sur le ponton, dans la petite cabane, grâce à la voix de Romain de Bec-de-Lièvre qui lit un extrait de votre texte « Zao ». On entend que, vous disiez tout à l'heure, il faut être de quelque part pour pouvoir être un peu partout chez soi, pour être global, pour reprendre votre mot. Est-ce que ce quelque part-là, il a à voir avec la petite cabane dans laquelle vous finissez par inviter Zao Bouki et sa femme ?
C'est vrai que quand j'étais loin, parfois, je pensais que chez moi, c'était cet endroit. Quand je pensais à chez moi, c'était cet endroit. Parce que lié à l'enfance, lié à l'océan Atlantique, lié, on a tous une cabane dans le cœur aussi, hein. Et la mienne était suspendue, effectivement, presque comme un bateau, comme ça, à 100 mètres du rivage, avec, au milieu des puissances du monde, hein. C'est, dès qu'il y a un peu de vent, dès qu'il y a un peu de mer, on sent que une équation est supérieure à vous. Et en effet, chez moi, c'est le chez-moi symbolique, quoi. Quand je pensais à chez moi, quand j'étais très loin, ça m'est arrivé souvent de rester des longues séquences comme ça, à l'autre bout du monde, je pensais à ma cabane.
Comment est-ce que vous avez vécu le fait d'inviter Zao Bouki et qu'il travaille dans cet endroit ?
Mais c'est Bouki qui voulait voir, parce qu'un jour il était tombé sur une photo dans un magazine, j'ai pu, il me disait « c'est ta maison là-bas ?» Je dis « non, c'est pas ma maison, mais c'est la cabane où je vais travailler. » Il me dit « je veux absolument aller, ça me plaît, tu me montrerais un jour et... ?» Et comme à l'époque on peignait beaucoup, il faisait pas très beau aussi, et puis on se réfugiait à l'atelier pour travailler. Quand on est allé à la cabane, il faisait pas très beau non plus, il y avait du vent, mais ça lui a, il a compris. Il a compris que c'était un lieu incroyablement inspirant. Pourquoi il était inspirant ce lieu pour nous ? C'est que la nature était autour, quoi. On se sentait tout petit parmi un dispositif phénoménal qui est ce grand arrangement panthéiste, quoi, qui nous enlace depuis toujours. Et lui, tout comme moi, on faisait de la peinture avec cette impression-là.
Mais alors moi, en lisant ça, je me suis dit, mais je sais pas, j'avais l'impression d'une très grande, pas impudeur, mais de possibilité d'être ensemble très intime, en fait. De peindre côte à côte m'a paru extrêmement intime.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est peu fréquent. Puis ça n'a pas été tout de suite, hein, parce que notre amitié,
chacun dans votre coin, quoi. Vous êtes chacun à votre travail.
Côte à côte, chacun dans notre travail. Oui, voilà. On oubliait un peu, on oubliait l'autre. Hein. Quand on peint, on est dans une bulle. C'est vrai. Mais en même temps, c'est ça aussi l'amitié, de ne pas être gêné et même réjoui par la puissance, j'allais dire la puissance, mais c'est vrai, je peux le garder ce mot-là, par la puissance de l'amitié.
Et vous réussissiez à passer des heures en travaillant comme ça ?
Je ne sais pas si c'était des heures. Oui, c'était parfois assez long. Oui, c'est vrai. Peut-être, oui.
Et c'est moi qui projette l'idée d'une impudeur ou pas du tout, enfin, ou de quelque chose de très intime.
Non, c'était pas impudique. Moi, on le vit. Enfin, lui, je sais pas, mais moi, je le vis. C'est un truc très naturel. On était ensemble, quoi. On était ensemble pour casser la croûte, on était ensemble pour se promener sur le littoral, on était ensemble pour faire de la peinture, rien que des trucs très naturels.
Comme vous étiez ensemble parfois pour aller vous baigner, alors je ne sais pas si c'était dans cet océan-là,
oui,
mais entre autres, et c'est quelque chose qui revient, cet élément aquatique, alors dans ce texte, pour évoquer votre amitié avec Zawoki, pour évoquer aussi sa peinture, mais dans un autre texte qui s'appelle Nager, on sent que l'eau, puis même dans le manifeste finalement, c'est ces choses qui coulent, les choses qui sont liquides, qui enlacent, c'est extrêmement présent, Richard Texier, dans tout ce que vous écrivez.
Oui, c'est très taoïste aussi, c'est-à-dire rien n'est pire que l'enkystement du cœur, l'enkystement des idées, l'enkystement des processus créatifs. L'eau est une leçon, elle court, elle échappe, c'est une incarnation presque de l'élastogénèse. Et effectivement, quand on peut s'en servir comme fluidifiant de la couleur c'est des minéraux, hein. D'un coup, on a l'impression de mettre des chances de son côté. Parce que la peinture, enfin la réalisation d'une œuvre est beaucoup une affaire de stratégie. Stratégie mentale, stratégie physique, stratégie technique.
C'est-à-dire ?
Ben, il faut penser à tous les étages. C'est pas le tout de chatouiller le mystère du monde. Une fois que on en est tout prêt et que on est en affinité avec lui, il faut pouvoir fixer ce qu'on ressent. Et une peinture trop dure, trop... Enfin, moi, je sais mal l'exprimer avec des mots parce que je le fais sans le dire, sans avoir besoin de le dire. C'est peut-être un truc, d'ailleurs, qui présidait à nos rencontres. C'est-à-dire que on ne disait avec des mots que des trucs qu'on pouvait pas dire autrement. Et finalement, quand on y regarde bien, il y en a assez peu des trucs qu'on peut pas dire autrement. Il y a toujours le diable qui est dans le langage. Quand on se touche, quand on se regarde, quand on partage des trucs, un fruit ou une peinture ou un éblouissement de extérieur, de vent, de soleil, de nuages, on n'a pas besoin du langage. C'est là, on le partage, c'est réjouissant, tout va bien.
Vous parlez de liant, d'eau, et ça me fait penser à ce que vous racontez de sa surprise lorsqu'il réalise que vous fabriquez vos couleurs et que c'est quelque chose qu'il ne fait pas. Pourquoi d'un seul coup ça devient très intéressant pour lui, Zawoki ?
Ça l'avait beaucoup étonné, ça, parce que il comprenait pas que je fabrique mes couleurs, il comprenait pas l'intensité de pigments que je cherchais.
Parce que vous n'étiez pas, vous, satisfait pour la peinture que vous aviez à faire de la peinture qui était fabriquée par d'autres.
Mais les peintures du commerce, elles ont beaucoup de liants, parce que les fabricants mettent des chances de leur côté pour que le pigment soit bien collé sur la toile. Sauf que le pigment, ça bouche un peu. C'est-à-dire, ça évite que la lumière circule dans les cristaux de pigment et se gorge de lumière. Donc moi, j'ai assez vite réalisé ça et je prenais le risque de mettre très peu de liant pour que le pigment s'exude en surface et capte la lumière. Et en effet, quand je faisais des rouges, alors quand on fabrique ces couleurs, on est obligé d'en faire un peu une quantité. Donc j'en faisais dans des seaux ou dans des petits containers. Et quand vous qui voyez ce rouge, il résistait pas. Je sais pas, ça lui rappelait quelque chose de sa Chine. Et il pouvait pas s'empêcher de tremper un pinceau, de pousser des cris. Ah oui, parce que ce qui m'avait beaucoup intéressé, y compris dans les captations que je faisais de lui, c'est que non seulement on le voyait peindre, mais on l'entendait peindre. On entendait ce chi, vous savez, des Chinois, cette énergie qu'ils expriment jusqu'au bout du geste et qui nourrit son travail. On comprend beaucoup de sa peinture quand on l'a vu peindre.
Mais notamment, il y a un passage dans le film Rouge très très fort où il prend, alors je sais pas si c'est le rouge que vous évoquez,
c'est
là,
celui-là,
Richard,
oui.
Texier, il peint avec un très long pinceau directement au sol d'un atelier qui est le vôtre.
Oui.
Et en effet, je sais pas si on peut dire qu'il crie, mais il accompagne son geste avec des sons.
Oui, il y a de l'énergie qui accompagne le geste. Ça m'avait beaucoup frappé. Et puis il le faisait avec beaucoup de naturel aussi. C'était lié sans doute à son apprentissage de la calligraphie. Vous savez, on n'écrit pas avec la main seulement, mais avec la totalité du corps. Et donc, il faut solliciter une force intérieure qu'on essaie de faire couler dans le pinceau.
Vous avez parlé de transmission parce que ça faisait partie des choses qui lui importaient. Donc on a parlé de la boîte qu'il vous offre, mais aussi de la manière dont il vous donne une sorte de passeport pour votre voyage en Chine, peut-être aussi au cœur de vos discussions. Est-ce qu'il y a des choses dont vous savez, dans votre art, dans votre peinture, dans votre sculpture, qu'elles viennent directement de ce lien-là ou de la fréquentation de sa peinture ?
Alors, j'ai connu Vuki assez tard. Hein. J'avais plus de 40 ans quand on s'est rencontrés. Et mon œuvre, mon vocabulaire était quand même assez bien construit. Et puis la porte d'entrée pour son œuvre, ça a été lui. J'y serais pas venu tout seul, je crois. C'est une peinture qui me parle, d'autant plus que je l'ai connue intimement, y compris dans sa fabrication intime. Mais donc j'ai pu rentrer j'ai pu y accéder. Vous savez, la porte d'accès d'une œuvre, d'un territoire, ça compte un être, ça compte énormément. Il y a eu un certain nombre de petits mythes fondateurs assez éblouissants qui m'ont permis de vraiment de me brancher à l'univers de Vuki. Et réciproquement. Mais on peut pas dire que c'est un univers qui a eu de l'influence sur mon travail d'artiste.
Donc quand vous vous promenez par exemple au Musée d'Art Moderne à Paris, vous n'êtes pas tant en lien avec sa peinture qu'avec ce que vous savez de lui en lien avec sa peinture.
Non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je comprends sa peinture. Enfin, je la comprends, sa peinture. Au sens où je la ressens. Je sais comment il faisait, je sais ce qu'il habitait.
Oui, c'est ça, mais c'est ce que je dis. C'est que savez ça. Voilà. Vous n'êtes pas en lien avec sa peinture en tant que c'est aussi... ça peut être une expérience qui, pour moi, ne connaissant pas du tout, est très... en lien avec une sorte de silence de la peinture.
Oui, je comprends. Alors que
c'est moins silencieux, peut-être.
Peut-être, mais ma relation, en tous les cas, est très incarnée à cette peinture. Parce qu'elle fait référence non seulement à Vuki, à sa voix, à ses gestes, mais aussi à la Chine, à sa maison où j'ai découvert, à son parcours, à son atelier que je fréquentais souvent. Elle convoque tout ça, sa peinture, quand je vois ses tableaux. Et là, mais il y avait des tableaux que j'avais pas vus, là, pas mal même, au Musée d'Art Moderne, des grands tableaux qu'on voit rarement. Il faut aller la voir, cette expo... ne serait-ce que pour ça, les grands tableaux de Vuki, les tableaux qui accueillent le corps, vous savez, qui sont comme une bataille, où on se vide au profit de son tableau, mais on vide un peu de son énergie vitale. Et il faut aller voir ces tableaux, ils sont très physiques. Et alors évidemment que je regarde, mais vous savez, c'est vrai, ce qui est vrai pour moi est vrai pour vous tous, c'est-à-dire que pour nous tous, on regarde avec le matériel de référence qu'on a. Moi, j'ai jamais lu un texte critique sur Vuki. Peut-être une fois ou deux, quoi. Mais parce que j'en avais pas besoin. J'avais tout le matériel, je l'avais, quoi. Je savais comment appréhender cette œuvre, cet être. Je savais la joie que ça me donnait. Alors, c'est vrai que ça m'aidait pas à faire d'autres tableaux. C'est-à-dire, ça avait pas une influence au sens où l'entend habituellement. Mais vous savez, l'amitié n'est pas dénuée d'influence non plus.
Je pense que il y a deux histoires. Il y a une histoire majuscule écrite par le pouvoir. Mais chaque pouvoir réécrit encore une fois cette histoire-là. Il y a l'autre histoire, ça c'est écrit par les écrivains, par la littérature, par l'art. Ça c'est, cette histoire-là ne retouche plus une fois écrite, une fois publiée. Mais si ça peut ultérieurement encore valable, voilà, ça vaut la peine encore de lire, et ça touche encore les gens parce que ça c'est dans cette histoire-là, c'est un témoignage des conditions existentielles humaines. Voilà, on affronte directement tout ce monde chaotique, y compris la nature humaine tellement compliquée. Voilà. On n'évite pas ça. Alors, on laisse un témoignage. C'est beaucoup plus fidèle, beaucoup plus valable de reconnaître notre vie.
C'est la voix de Gao Xinjiang au micro de Caroline Brouet en 2016 sur France Culture. Richard Texier, que vous citez d'ailleurs en exergue de votre texte Zao, et qui vit l'art comme une sorte d'écriture parallèle de l'histoire, une écriture qui se ferait à côté de l'écriture du pouvoir. Et il me semble que dans ce texte-là, Zao, vous montrez ça très bien, c'est-à-dire à la fois le rapport pudique et économique dans la parole de Zao Vuki en rapport avec l'histoire de la Chine, Et en même temps, tout ce qui témoigne de son rapport au monde, à l'existence, dans sa peinture, quoi. De choses qui avanceraient en parallèle ou en dialogue.
Oui, parce que les peintres ont fait des tableaux avec à la fois des anecdotes, une grande histoire aussi, qui est une histoire articulante, chacun à la sienne, un projet, mais que des trucs qui sont pas intéressants à dire. Ce sont un fond de laboratoire, au fond, vous voyez, les choses fonctionnent sur un arrière-plan et elles sont visibles sur l'art. C'est pas franchement utile de connaître la cuisine technique, mais non plus la cuisine mentale. Qu'est-ce qui préside à la fabrication de l'œuvre? Ce qui compte, c'est ce qu'elle rend, ce qu'elle donne, comment elle agite les esprits qui la regardent.
Et vous pensez qu'il y a quelque chose, alors donc je vais faire l'inverse de ce que vous me suggérez, vous pensez qu'il y a quelque chose du parcours de cet homme, mais qui est aussi un petit bout de l'histoire mondiale, des raisons pour lesquelles il quitte la Chine, des raisons pour lesquelles la maison est retirée à sa famille et séparée, des raisons pour lesquelles le caractère lettré, artistique, financier de cette famille-là à un moment donné de l'histoire de la Chine malmenée, est-ce que ça existe dans sa peinture ou pas du tout?
Ah, bien sûr, parce que il a payé très cher, vous savez, de venir en Occident et de rejoindre ce feu qui brûlait là-bas, quoi. Il a abandonné ses parents qu'il adorait. Enfin, il m'en parlait souvent, vous quitte ça.
Son père a acheté sa première toile.
Oui, son père a acheté sa première toile. Il n'était pas là quand les gardes rouges sont arrivés. Enfin, très violent avec sa famille. Ils ont pris la maison, ont obligé son père à balayer la cour. Enfin, bref. Chaque jour, sous les quolibets des voisins et des jeunes gardes rouges. Ça a été extrêmement violent. D'ailleurs, il avait coutume de me dire que ce que je disais, t'as envie de retourner en Chine, tu voudrais qu'on aille ensemble un jour. Il est allé ponctuellement pour faire des expos, mais le retour était impossible. La Chine qu'il avait aimée n'existe plus. Enfin, elle n'existait plus. Et du coup, pour lui, ça n'avait pas tellement de sens. Et retourner vers quoi? Et Wuki, c'est vrai, est un citoyen du monde. Il l'est devenu. Sa peinture l'est. Elle est mondialement connue. Elle parle d'Orient et d'Occident, en Asie, aux États-Unis. Elle parle au monde. Elle est très emblématique d'un parcours d'un artiste du XXe siècle. Très emblématique. Elle charrie l'histoire du monde, c'est vrai. Et d'ailleurs, il n'en parlait jamais. Quand on parlait, j'ai essayé plusieurs fois de parler avec lui de Mao et de la révolution culturelle, il levait les yeux au ciel et il disait rien. Ça l'attristait beaucoup, mais il n'a jamais fait de commentaires politiques. Il pensait justement que l'art était peut-être l'ultime refuge du bonheur, ce qui témoignait au fond de la vérité de l'être, et que les drames... des peuples, les drames collectifs. Il fallait travailler à ce que le parcours individuel et l'art d'un artiste s'en exonèrent.
On a parlé de votre méfiance des mots en tant que peintre, de celle que vous venez d'écrire du côté de Zhao Wuqi. Et pourtant, Richard Texier, l'une des raisons de votre invitation ce soir, c'est un livre. Donc c'est que vous vous en méfiez pas complètement jusqu'au bout des mots et du langage.
C'est un paradoxe mystérieux pour moi. Je comprends pas cette mauvaise habitude que j'ai de la nuit de commencer à écrire comme ça, là. Parce que je suis très contenté, très occupé, très...
Par la matière.
Ah mais oui, j'ai affaire, quoi. Et qu'est-ce qui me prend d'écrire des livres? Et j'aime passionnément le faire, ça m'emporte. Vous parliez de la rivière tout à l'heure. Ça m'emporte, ça dénoue des enquistements, c'est un truc, c'est un peu irrépressible.
C'est du côté de l'élastogénèse.
Oui. Peut-être bien, oui. Peut-être bien. Mais après tout, est-ce que ça sert de s'interroger sur pourquoi on fait les choses? L'important, c'est d'avoir l'énergie de le faire et puis de sentir que le sac est plein et puis qu'on n'est pas au bout, quoi.
Quand par exemple, vous écrivez ce texte sur Zhao, vous vous dites pas pourquoi je le fais. Vous vous dites, j'ai besoin de le faire ou en tout cas, je suis en train de le faire.
Oui, je sentais bien, je l'ai écrit pendant l'été. L'été, on partait en vacances ensemble, on se voyait un peu plus encore l'été. Et c'est vrai que c'était une manière de le remettre en mémoire, de célébrer des trucs. Je repensais à lui quand il rentrait dans l'océan, il rentrait à reculons dans l'océan. Et qu'est-ce qu'on a pu rire avec ça? Il se reconvoquait. Et c'est vrai que dire les choses, les écrire, se les dire à soi-même. Hein. Moi, quand je fais un tableau, je pense pas aux autres. Hein. Je fais mon tableau pour moi. Et un texte aussi. J'ai longtemps pensé, d'ailleurs, que ça n'avait aucune valeur, ce que j'écrivais. C'est trop simple. J'écrivais des trucs pour moi, quoi. Voilà. Mais ça compte de rendre visible, de pouvoir relire une pensée. De...
C'est marrant que vous disiez ça. Le texte, ça rend visible, quoi, alors que vous faites de la sculpture et de la peinture.
Oui.
C'est drôle.
Oui, oui, ça rend visible des flux, des intentions. De... Enfin, moi, je ne fais pas des textes ni théoriques, ni analytiques. Hein. Vous voyez, c'est des textes qui cheminent comme le cours de l'eau, quoi, qui vont et qui viennent sur les terres, dans la profondeur du monde, qui vont dans des gouffres, mais qui ressurgissent, qui cherchent la lumière. Cherche la lumière, moi, quand même. J'ai un truc avec ça.
Richard Texier, Zao, c'est le titre de ce dernier livre. C'est publié chez Gallimard. On peut aussi signaler Nager, qui est publié chez Gallimard. Et enfin, le manifeste de l'élastogénèse, paru, lui, aux éditions Fata Morgana. Merci beaucoup. Son ce soir, c'était Valérie Lavalard à la réalisation, Olivier Guérin, Jeanne Aléos, Romain Debec-de-Lièvre, Corinne Amar m'aident à préparer et penser cette émission. Vous pouvez la réécouter sur franceculture.fr et vous abonner au podcast de Par les temps qui courent.